חרז מיישם עליכם תחיו לאורך הימים תמיד שנים לימים. Nous poursuivons notre analyse des psukim de Parashat Vaera. Donc nous avons déjà indiqué que il y a deux facettes, il y a deux parties dans la mission de Moshe. Il y a d'une part d'informer le peuple que le temps de la délivrance est arrivé. Et ça, le peuple a accepté, comme il est dit, Vayamen Aham, Vayishmeo Kipakad Hashem et Amo. Donc le temps, ils ont cru de. Ça, c'est ce qui est dit à la fin de Parashat Shemot. Mais la deuxième partie, c'est ça, ils n'ont pas donné tellement de crédit à Moshe que c'est lui qui est chargé de cette mission de les délivrer. Et ils pensent, le peuple pense que c'est Moshe, il s'est investi de lui-même dans cette mission. Et Kadosh Baruch Hu ne lui a pas... Moshe étant Aral Sefataim, il a une difficulté à l'élocution. Donc le peuple considère qu'il n'est pas adapté à ça. Donc il ne lui donne aucun crédit. Nous avons dit que c'est pour cette raison que quand il va voir Pharaon, il est le seul à y rentrer. Les autres, les Ékénim, se sont tous l'ont laissé seul, l'ont accompagné, mais n'ont pas été devant Pharaon, et que ça réussit pas. Comment Moshe pourrait-il convaincre Pharaon si le peuple lui-même ne lui confère pas, qu'il ne se présente pas devant Pharaon en tant que délégué, nommé par le mandaté par le peuple? Il se présente devant Pharaon mandaté par Dieu seulement. Et ça, ça peut pas marcher. Et dans la paracha, donc il est dit à nouveau, paracha de Baïra, c'est tout le début de la paracha indique que c'est la confirmation de cette mission. Il faut faire en sorte que Moshe est confirmé, est accepté par le peuple. Alors, nous avons indiqué que il est dit, Vaitzavem, Vaitaber Hashem el Moshe, Velaron Vaitzavem, il a ordonné aux Bnei Israël, Vaitzavem, il leur ordonne sur les Bnei Israël de parler aux Bnei Israël, de se faire accepter. Mais elle parle en Mitzrayim, mais Pharaon aussi. C'est-à-dire que Pharaon doit accepter, le peuple doit accepter, doit considérer Moshe comme étant son représentant, et que Pharaon aussi doit le considérer comme étant l'interlocuteur qui parle au nom d'Am Israël. Et là, tout d'un coup, comment ça va marcher? Tout d'un coup, on nous dit « Ele Rache Bet Avotam ». Alors ici, on va nous faire la généalogie de Moshe et de Aaron. Elle est rachée bétabotam. Donc on commence par la tribu. Voici les chefs des tribus. Donc on dit Béné Réhouven, les enfants de Réhouven, qui est Béchor Israël. Hanor, Hufalou, Hetzron. On cite les enfants de Réhouven. Deuxième verset, Oumne Shimon et les enfants de Shimon. Yemuel, Vihamin, Vechoule, etc. On les cite. Quand on arrive à Lévi, c'est marqué différemment. Il dit, Ve'el et Shemot Bene Lévi, les Toldotam, Gershon, Ukat, Umari. Donc on remarque ici qu'il y a un changement dans la formulation. Pour les autres, il y a marqué Bene Reuven, Bechor Israël, Hanor, on les cite. Après Shimon, il a marqué Obni Shimon, Yemuel, etc. Mais quand on arrive à lui, on dit Ve'ele, les voici, les noms des enfants de Lévi selon leur naissance. Gershon, Ukat, Umrari. Donc Lévi, il avait trois enfants. Après on le dit Ushne, Haye, Lévi, Vechoule. Et après on va arriver, toute la descendance, jusqu'à arriver à Moshe et Aaron. Et là, il est dit, Hem, Aaron ou Moshe, Asher Amar Hashem, Lahem, ou Aaron ou Moshe. C'est Aaron, donc ces descendants-là, c'est Aaron et Moshe. Ces deux-là, auxquels Akadosh Baruch Hu a dit, sortez, c'est vous, Otsi ou Ben Bene Israël, Meret Mitzrayim. C'est vous qui devez sortir les enfants d'Israël d'Égypte, Atsibotam, selon leur armée. Hem Amdarim, c'est eux qui parlent à Pharaon. de sortir, de faire, pour faire sortir les enfants d'Israël. Où Moshe et Aaron? C'est eux, Moshe et Aaron. On voit qu'il y a une différence. Donc ici, c'est exactement l'idée qu'il s'agit de les confirmer que c'est eux qui sont chargés de, c'est Moshe et Aaron qui sont chargés de les libérer. Donc ils sont missionnés par ça. Et quelle est la preuve? La preuve, elle est marquée, c'est donc tout ce paragraphe qu'il s'agit de faire la filiation, on nous introduit Mithor, on veut nous faire la génie. D'où ils sortent ce Moshe et Aaron? D'où ils sortent? Comme s'il y avait besoin de faire leur arbre généalogique. Quel intérêt y a-t-il à tout cela? Alors, c'est marqué ici comme ça. Hein, ici, le Yesod, le secret ici qui est inscrit, c'est justement comment les arguments qui font que le peuple va accepter Moshe et Aaron en tant que chaliar. C'est comment convaincre le peuple que Moshe et Aaron sont chargés de les sortir d'Égypte. Alors regardons qu'est-ce qu'il est dit. Béné Réhouven, on nous cite les enfants de Réhouven. Béné Shimon, on nous cite les enfants de Shimon. Quand on arrive à Lévi, Véhel et Shemot, Béné Lévi, Vétoldotam. Voici les noms des enfants de Lévi, selon leur... Alors ils s'appellent Gershon, Ukhat ou Mari. Ici on nous donne trois noms. Et le Midrash dit à ce sujet, Gershon, c'est quoi le mot Gershon? Lévi, il a nommé ses enfants sur le Galout. Lévi a vu que Am Israël serait en exil dans la souffrance, dans trois dimensions de l'exil. Gershon, ça signifie qu'ils seront exilés étrangers dans un pays étranger. Premier stade de la Galout. Kehat, ça veut dire l'affaiblissement. Kehat signifie qu'ils seront affaiblis. Le galout, il affaiblit parce qu'il y a une étape dans laquelle les Égyptiens vont commencer à les mettre de côté, à les asservir, sans trop exagérer. Merari, ça fait référence à l'amertume. C'est la période la plus difficile de l'esclavage et de l'oppression. Donc Lévi, il a nommé ses enfants, il avait à cœur cette idée-là, que Am Israël va souffrir. Et il a nommé ses enfants dans cette idée-là, de la souffrance, l'exil, la souffrance, l'oppression, etc. Donc il a dit, celui qui s'endeuille, donc il avait à cœur, il avait la douleur de Am Israël à venir. Donc il savait cela, donc il... Et c'est pour cela qu'il a nommé ses enfants sur la galoute, sur la souffrance d'Israël. Et celui qui est soucieux de la souffrance d'Israël, Raoui Hu Lirod Ben Nehama. Donc c'est lui qui mérite la Nehama. Donc les enfants, tous ont nommé leurs enfants, ils ont donné des noms. Mais celui-là, Lévi, il a nommé ses propres enfants dans l'idée de la souffrance, en espérant la délivrance. Alors Raoui Hu, il mérite alors que le sauveur, celui qui sera chargé de les délivrer, il sort de ses enfants. C'est pour ça que toute la généalogie, elle est faite pour nous valider, confirmer que c'est bien Moshe et Aaron qui sont chargés de Hemam et d'Abarim El Paro. C'est cette confirmation-là qui est faite à travers... cette généalogie-là, Medouyak, et on peut bien en déduire, dans la distinction, les versets sont bien précis, ça nous permet bien de voir la différence de ce que les noms des enfants de Lévi contiennent en eux, la délivrance, puisqu'ils sont nommés sur la souffrance. Sur l'exil, sur la souffrance, sur l'oppression. Donc ils contiennent en eux le potentiel de la délivrance. Et de suite il est dit, « Vayi beyom diber Adonai el Moshe be'eres Mitzrayim. » Ça, c'est tout ça, ça a été dit le jour où Akadosh Baruch Hu a parlé à Moshe en terre d'Égypte. Et là, il y a une nouvelle parole. Vaïdaber Hachem el Moshe. Les morts. Ani Hachem. Il dit, Daber el Paron Melech Mitzrayim. Et kol asher ani dover elecha. Il dit, va dire à Pharaon tout ce que je te dis. Quoi, tout ce que je te dis? Tout ce que je te dis. Pourquoi est-il précisé, nécessaire de dire tout ce que je te dis? N'était pas, si Moshe, si Akadosh dit à Moshe quelque chose, il va le dire. Donc c'est un shaliach ne'eman, il est fidèle, c'est un serviteur fidèle, donc tout ce que le maître dit, il va le transmettre. Pourquoi est-il précisé de dire tout ce que je te dis? Alors qu'est-ce qu'il lui dit Moshe? Voyons mais Moshe, l'ifne Hachem, il dit voilà, Hachem, Moshe dit à Hachem, enani aral sefataim, voilà que moi j'ai une difficulté à parler. Ver ishma elai paro. Comment Pharaon pourra tendre l'oreille à moi, vers moi? Ici, il n'est pas dit comme en haut, vers Ishmael et Paro. Il est dit ici, vers Ishmael et Paro. Il y a une distinction ici dans la formulation. Quelle différence il y a si on dit, si Moshe dit, vers Ishmael et Paro, c'est-à-dire il entend mes paroles. Ou bien, si je dis vers Ishma Elai, Pharaon, est-ce que Pharaon va donner, entendre crédit aux paroles que moi je prononce? Il y a ici une différence fondamentale. De quoi s'agit-il? Ici, il va lui transmettre quelque chose de particulier. Parce qu'il est dit après, au début, dans la vision du buisson, Akadosh Baruch Hu lui a dit, Vani Adarti, et moi je sais, Kiloiten Lachem Pharaon Alechet, que Pharaon il n'acceptera pas de vous laisser partir. Et là il est dit, Vani, ici nous sommes à ce qui va précéder les Makot, Vani Akshe Etlef Pharaon, et moi j'endurcirai le cœur de Pharaon, Virbetie et Tototai, et je multiplierai mes prodiges et mes vet mofta veret misraim velo ishma lechem paro benatati et yadim mitzraim veotzeti et tzivota et ami. Donc Pharaon il va pas accepter jusqu'à ce que je vais lui donner véritablement les multiplier les makot. À la fin il est dit vayadou mitzraim ki ani adonai bintoti et yadim al mitzraim, ils sauront que je suis l'Éternel. Donc, qu'est-ce qui a marqué? Voyas Moshe Aaron, Kasher Tziva Adonai. Donc, ils ont fait comme Dieu leur a ordonné. Donc, ils sont partis dire cela à Pharaon. Au Moshe, alors, il s'est marqué que Moshe, il avait 80 ans et Aaron 83 ans. Ici, qu'est-ce qu'il a ajouté? Il a ajouté que Pharaon, Moshe va chez Pharaon et lui raconte aussi cela. Il lui dit aussi, toi, Pharaon, Dieu va alourdir ton cœur. Et tu n'accepteras pas de délivrer le peuple. Il lui transmet ça, il l'informe de ça. Donc Moshe dit à Pharaon que lui-même Pharaon va avoir le cœur endurci et qu'il n'acceptera pas de délivrer. Il ne se soumettra pas. Et tout cela de telle sorte que les miracles et les prodiges vont se multiplier. Et là, nous avons une véritable nekuda importante à comprendre. Tous les farshim se demandent, le libre arbitre, comment c'est possible? Akadosh Baruch Hu, il l'a retiré à Pharaon, le libre arbitre. Qu'est-ce que ça signifie qu'il lui a alourdi le cœur? De quelle manière il a alourdi le cœur? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, il le frappe, il lui donne des coups terribles, et Pharaon, il lui donne la force de s'entêter. Il lui donne la force de s'entêter. Comme si il ne sent pas les coups. Il dit, tu peux taper, tu peux détruire le pays, je suis têtu. À ce moment-là, donc, c'est quoi? C'est taper pour taper. Est-ce que c'est possible? Et ici, il est à noter, la midat rachamim, que des makot, elles frappent l'Égypte. Mais chez Mavaya Baruch Hu. Et Kadosh Baruch Hu, Il dit, les ma'antedak qui ani Hachem, et qui sache que je suis Hachem. Alors, les mfarshim, il y a des mfarshim qui expliquent que les makots, en fait, les makots sont frappés. D'abord, il y a cette idée-là que Moshe, que quand je vous renvoie Moshe à Pharaon, et il lui demande gentiment d'accepter. Et c'est une démarche un peu de soumission. On te demande, s'il te plaît, Pharaon, libère le peuple. Donc les pharaons, ils disent, qu'est-ce que c'est cette démarche? Il ne comprend pas cette démarche. Après, viennent les makot. Alors les makot, on va les prendre dans cet ordre, Dam, Svardé, Akinim. Alors il frappe une maca sur le sang. Le sang, mais le sang, c'est dans le fleuve. Donc l'eau du fleuve est devenue du sang. Bon, et Pharaon se dit, bon, c'est une maca qui est lointaine, je ne suis pas directement concerné. Comme si que les macottes viennent de manière progressive. Que Jvokhoun n'abat pas, n'extermine pas une maca terrible qui frappe tout le monde de sans distinction et qui accable les grands et les petits de manière totale. Il frappe de manière progressive. Alors ces dames, c'est loin. Kinim, c'est sur la terre, c'est l'eau, la terre, c'est toujours loin. Svardéa, c'est dans le fleuve. Et Kinim, ça se rapproche. Mais c'est pas terrible. Donc Pharaon comprend que Pharaon ne comprend que l'épreuve de force. Et on remarque que certaines makot, donc les makot, elles sont progressives. Que les trois groupes de makot sont progressives. Dam, Svardé, Akinim, Arov aussi, c'est loin, les bêtes féroces. Arov des vers sur les animaux. Shehin, ça commence à gratter, mais c'est pas terrible. Bon, c'est des plaies, bon, c'est supportable. Après, Dam, Svardé, Akinim, Arov des vers Shehin, Arbé. Donc il y a une progression et la maca la plus terrible, c'est Makat Bechorot. Donc il y a une progression dans les makot. Et plus il y a une progression, et à chaque fois Moshe va demander que Pharaon veuille bien laisser le peuple, ça signifie qu'il y a dans la conception de Dieu, que Pharaon a de Dieu, il considère que Dieu est tout-puissant. Donc, est-ce qu'il l'exige, il peut l'obtenir d'un coup. Bemidat Hagvura à total. C'est la seule conception qu'il a. Et le fait que Akadosh Baruch Hu s'adresse à Pharaon avec miséricorde, Rahamim, donc il le sanctionne, mais de manière mesurée. Avec mesure, ça, Pharaon le prend pour une faiblesse. Et c'est ça qui fait que son cœur va s'alourdir. C'est pas qu'Akadoro lui a alourdi le cœur, c'est que le processus des makot, la manière de faire, de procéder. Il y a des makot qui sont faites par Aaron, il y a des makot qui sont faites par Moshe, il y a des makot qui sont faites par les deux à la fois, il y a des makot qui sont faites par Dieu, il y a des makot où ils sont avertis, il y a des makot qui viennent sans avertissement. Il y a des choses qui viennent sans que Moshe et Aaron aient à faire quoi que ce soit. Comme par exemple, les bêtes féroces sont apparues subitement. Là, il est dit qu'il lève le bras. Là, il est dit qu'il est avec le bâton. Et des fois, c'est avec la parole. Des fois, il ramasse la poussière et il jette. Donc, la maca, elle vient. Donc, la manière de faire, elle est telle. La maca elle-même, la manière de faire, là où frappe la maca, fait en sorte qu'il y a, comme si qu'il y avait une incapacité de pouvoir. Donc Dieu peut, donc c'est le Dieu d'Israël, il est capable de faire des choses, mais il n'a pas un pouvoir absolu et total et il n'obtient pas immédiatement. Donc il n'a pas un pouvoir total. Et c'est ça qui fait que Pharaon imagine que Dieu est faible. Donc c'est cette opportunité, cette idée, c'est donc qui prend la miséricorde pour une faiblesse. Et c'est ça qui fait que Pharaon, il est marbide et libo, que le Dieu, lui a donné la possibilité de comprendre que, d'alourdir, de refuser, de s'entêter. Et jusqu'au moment où la puissance de Dieu se déclenche et s'abat de manière totale, c'est Makat Bechorot. Et c'est exactement cette idée-là qui va. Rashi mentionne cette idée au sujet de Makat Barad. Il dit que quand le Barad est tombé, alors le Véakousémet, il y a marqué qu'il y a des céréales qui étaient tardives, donc ils n'ont pas été frappés. Donc Rachidi ramène un Midrash qui dit que Pharaon il a pris ça pour une faiblesse. Il dit, ah, Dieu, il n'est pas capable de détruire toutes les récoltes. Il y a des récoltes qui n'ont pas été détruites. Et donc, c'est-à-dire que l'ami, il prend la miséricorde, la bonté, la gentillesse comme une faiblesse. Donc, c'est-à-dire qu'il ne conçoit Dieu que dans la rigueur totale et absolue. C'est pour ça que le Passouk dit, « Veyado mitzrem ki ani Hashem » Ils sauront que je suis Hashem, Dieu de miséricorde. Malgré la sanction, je suis miséricorde. Et ça, les Égyptiens doivent arriver à l'accepter, à le comprendre. Ça, c'est la démarche. Et il y a... Et cette idée-là, elle est développée, que on remarque que les 10 paroles, à Kadosh Baruch Hu, il a créé les luminaires, il a créé l'eau. Dans le récit de la création, nous voyons l'apparition de l'eau, de la terre, des animaux, des verdures, des végétaux, des animaux, des poissons, etc. Et tout ce qui apparaît dans le récit de la création a été frappé ici par le Shem Havaya Baruch Hu. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il domine. Et il réintroduit en frappant les makot sont c'est comme si que les makot en Égypte sont la répétition des 10 paroles de la création, que les éléments qui ont été créés par les 10 paroles de la création sont frappés b'shem Havaya, de telle sorte que Pharaon et non seulement Pharaon mais les ministres d'Israël aussi comprennent que cette parole que c'est la miséricorde de Dieu, bien que c'est une maca, c'est la miséricorde qui s'exprime. Et eux ne comprennent pas ça. À ce sujet, il est dit que le rachat, il transforme la midat rahamim datati. C'est ça l'idée qui est marquée, que le rachat, il transforme la bonté en rigueur. La qualité, la vertu de bonté se transforme, se change en rigueur. Parce qu'il ne voit pas, il n'appréhende pas la bonté, il ne comprend pas la bonté que Dieu il est bon, même s'il le frappe, il est bon. Il veut pas le frapper. Et ça, Pharaon ne le comprend pas. Il ne comprend que l'épreuve de force. C'est parce que dans son concept de la divinité est dure, mauvaise, méchante, intransigeante. Et pour cela que lui-même, il est intransigeant. Et c'est ça l'idée de la délivrance d'Égypte. Donc, c'est-à-dire qu'en sortant d'Égypte, on doit se délivrer de ce concept que la Avodah Zara, elle exerce une totale puissance et écrase l'homme. Alors que Akadosh Baruch Hu et la Torah, ça donne la vie. C'est le Dieu de vie et non pas le Dieu de cruauté. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.